Vous écoutez France Culture. À voix nue. Hommage à Ahmed Ben Bella, premier président de l'Algérie, qui nous a quittés le 11 avril 2012. Redécouvrons des entretiens qu'il avait accordés à Séverine Laba, c'était en mai 2005. Ce soir, Ben Bella, un révolutionnaire professionnel.
Ahmed Ben Bella, bonjour. Hier, nous avons évoqué vos années de formation. Aujourd'hui, parlons un peu de votre carrière de révolutionnaire professionnel. Et d'abord, dites-nous comment se décide l'insurrection du 1er novembre 1954.
Oui, alors notre parti, c'est le seul pays qui, disons, dont l'objectif était l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Mais un problème n'avait jamais été réglé, disons, d'une façon claire. C'est celui des moyens. Comment aller à l'indépendance? Est-ce par des négociations, finalement, qui se succèdent? Par un cheminement, je dirais, disons, pacifique? Mais au sein du parti, les choses étaient restées un peu en suspens.
Quand vous parlez du parti, je rappelle que vous parlez du PPA, hein, du Parti du Peuple Algérien.
Donc, qui est devenu, après, qui est devenu le MTLD, attention. Hein. Vous savez, avant ça, Salih Hadj était du côté de Brazzaville, vous savez, déjà, il avait été condamné combien de fois, puis finalement, exilé à Brazzaville, et en 1946, pour bien préciser, voyez-vous, ça se passe en 1946, c'est-à-dire, peu de temps après la victoire des Alliés, hein, en 1946, et tout de suite après un événement qui va être essentiel, disons, dans la détermination. C'est les événements de Sétif et de Guelma. Bon, je prends un exemple. Moi, je suis à Cassino, je remplis un contrat, bien. Sétif me fait basculer, parce que cette armée qui est allée libérer la France, 95% c'est des Arabes, c'est des Tunisiens, c'est des Marocains, des Algériens. La France était occupée, il n'y avait pas d'armée française. Il y avait des officiers français, les meilleurs. Ils sont venus par l'Espagne, qui ont accepté la prison, qui voulaient se battre, qui était formidable. Oui, mais les hommes, 98% c'est des Arabes. Bon, et finalement, il y a Sétif également. Le même jour où on glorifie la victoire des Alliés, à laquelle les Algériens, les Marocains, etc., c'est ce jour-là que chez nous, 45 000 morts meurent parce qu'ils ont manifesté. C'est pas vrai, il n'y avait pas d'action. Oui, le parti avait pensé, je vous l'ai dit, mais c'est revenu sur ça. Juste une région de l'Algérie, la Kabylie, va faire quelque chose, il va y avoir un maquis, que je récupérerai moi par la suite, n'est-ce pas, pour l'action du 1er novembre.
Alors, est-ce que vous pouvez nous clarifier quelque chose? Il y a quelque chose que les auditeurs ne connaissent pas forcément. Il va y avoir une lutte fratricide et sanglante entre, d'un côté, le FLN, qui va être créé à la suite du 1er novembre 1954, et puis le MNA de Messali Hadj. Bon, il faut rappeler que Messali Hadj, c'est le père du nationalisme algérien.
Moi, je ne vous dirai jamais un mot blessant contre Messali Hadj. Le père de la révolution algérienne, c'est Messali Hadj. Nous sommes ses fils. Mais vous savez, un père peut finalement se trouver, dans certaines conditions, en contradiction totale avec son fils, c'est tout. Ceux qui ont fait le 1er novembre, ce n'est pas le problème de M. Salih Hadj qui était en cause, c'est le moment d'agir. M. Salih Hadj, lui, était en 1946, il était encore à Brazzaville, et la France qui avait frappé, qui avait dissous le parti, s'est rendue compte qu'elle n'avait pas touché le système nerveux, disons, du parti. Qu'elle avait frappé, mais que ça tapait à côté. Disons, les œuvres vives du parti n'avaient pas été touchées par la répression de 1945. C'est le peuple qui a finalement payé les pots cassés, vous savez. Et voyons cela, c'est un autre langage qui va se développer. Pourquoi ne faites-vous pas une action politique qui peut conduire vers quelque chose qui ressemble à l'indépendance. Et pourquoi donc on fait un congrès? Mais Salih Hadj, je reviens, peut-être il y avait eu des discussions avec lui, n'est-ce pas? Et il vient justement, lui, totalement, disons, convaincu qu'il faut accepter cette façon d'agir, puisqu'on nous proposait d'agir comme ça
dans le champ politique.
Dans le champ politique, pourquoi refuser, etc. Nous venions de perdre 45 000 des notes, etc. Il revenait donc avec ça. Et ça a été convaincant, vraiment, lui, convaincant, mais pas moi. Pas moi, pas des jeunes qui étaient venus là, n'est-ce pas? Et qui, eux, vivaient avec le colon, n'est-ce pas? Moi, je ne pouvais pas, marcher dans le boulevard à partir de 4 heures de l'après-midi chez moi à Marnia. Parce que c'est les colons qui étaient là, avec les filles, etc., et qu'il fallait qu'on dégage. Hein.
Donc à ce moment-là...
Je vous donne un exemple, c'est tout. Et le reste, alors, je vous laisse réfléchir. Vraiment, on vivait dans une situation de... pas de citoyen de troisième catégorie, quatrième catégorie. Ça, on le vivait dans notre chair, n'est-ce pas? Je reviens de Cassino, décidé à casser la baraque, voilà, tout simplement.
Alors, donc, pour aller un petit peu vite, finalement, donc, vous allez décider de créer une organisation secrète.
Mais Salih, je reviens, lui dit, on va créer un parti politique, etc. Et nous, on lui dit, mais Salih, on croit en toi, tu es formidable. Il est formidable. Mais on ne croit pas à ceux d'en face qui nous disent non. Donc, alors, d'accord, on crée le FM, le MTLD, mais on crée une armée. On crée l'OS. L'organisation spéciale. À le même moment où nous créons le MTLD, on crée l'OS.
Donc on fait un saut dans le temps. 1er novembre 1954, déclenchement de l'insurrection et donc de la guerre de libération. Et puis le 20 août 1956, sous la direction d'Aman Ramdan, qui dirige donc le parti, le FLN tient un congrès clandestin qui doit jeter les bases de ce qu'est le programme du parti. Et vous ne participez pas à ce congrès, pourquoi?
Parce que ce congrès s'est tenu dans une région qui était très, très contrôlée par l'armée française, dans la Soumam. Vous savez, la Soumam, c'est une partie de la Kabylie, où il y avait une concentration de troupes très, très importante. Personnellement, je me trouvais au cœur, pas simplement moi, Aït Ahmed. Khider, qui fait partie aussi de la direction, n'est-ce pas? Aït Ahmed, Khider, moi, nous nous trouvons à l'extérieur et nous allons à Tripoli parce qu'on nous dit « Allez à Tripoli, on vous fera prendre en charge à partir de Tripoli ». Mais ils ne sont pas venus, donc nous n'avons pas participé à ce congrès.
Mais il y a des raisons politiques à votre participation au congrès, ce n'est pas seulement des raisons logistiques.
Abban ne voulait pas de ma présence, parce que moi je le gêne beaucoup, parce que Abban, qu'est-ce que c'est? Abban était un militant à Chalroum El-Aïd, à côté de Constantine. C'est moi qui vais le prendre là-bas. Il était secrétaire de la commune mixte. Ça, ce n'est pas mal qu'il soit. Souvent, nous avons mis à l'intérieur des organismes de l'administration française des types à nous. Abban n'a aucun titre, disons, dans la hiérarchie des dirigeants de la révolution algérienne. Il se trouve que la guerre a été impitoyable, vous savez. Les meilleurs sont morts chez nous. Ils sont partis dès le début, vous savez. Abban vient en 56, ça fait 2 ans qu'on se bat en Algérie, et qu'une bonne partie, disons, de ceux qui constituent la direction de l'Algérie sont à l'extérieur. Aït Ahmed est à l'extérieur, et pas des moindres. Aït Ahmed, c'est un gros calibre. Khider est un gros calibre, et moi, je suis un gros calibre. Bon, finalement, ce congrès se tient sans, disons, consistance. C'est surtout par des Kabyles et par quelques hommes qui sont pas loin des Kabyles, disons, Alger, etc. Et que surtout, là, il y a une volonté, mais qui ne s'exprime pas clairement, de refondre la direction et d'éliminer certains éléments de ça, notamment moi. Et ça s'exprime aussi dans les textes. La révolution algérienne, l'un de ses fondements, c'est la culture, c'est notre histoire, c'est l'arabité. Nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des Amazighs, vous savez. Nous sommes devenus Arabes par l'islam. Alors là, voilà.
Aban Ramdan a été traité de traître parce qu'il avait des contacts avec des Français, mais en fait, au Caire, vous aviez vous-même des contacts avec des émissaires de Mendès France.
Jamais je ne l'ai traité de traître. Ça peut être un très type qui avait des capacités extraordinaires, etc. Mais c'est un type qui n'était pas responsable, qui n'avait pas une grande responsabilité dans la mouvance, je veux dire, révolution dans le parti. C'est un type qui n'était pas connu, qui a été arrêté parce que les Français n'avaient pas beaucoup de renseignements. Ils l'ont mis en prison après l'affaire, justement, de l'OS. Vous savez, l'OS a été...
L'organisation
oui,
secrète.
Mais il n'était pas dans l'OS. Il était un membre du MTLD. Il avait d'extraordinaires capacités, ce type-là, d'organisation, etc. Mais d'où venait-il, enfin ? Il n'avait rien comme passage, justement, politique, etc. Absolument rien. Moi, je n'ai pas mis en cause cette dimension de traîtrise, etc. Jamais de la vie, c'était pas ça. Mais c'était quelqu'un, je vais vous dire... Il n'était plus communiste. Moi, tous mes amis sont des communistes. J'ai le cœur à gauche, vous savez très bien. Mais je ne suis pas communiste. Je suis musulman, mais pas Ben Laden musulman. Non. Pétri d'une culture de l'islam, surtout soufi, etc. Et donc, je suis. C'est une dimension qui est réelle chez moi. Bon. On n'avait rien à voir avec ça. C'était un laïc. Et même, j'ai dit plus que ça. Le fameux congrès de la Souma, le texte a été écrit. Pas par Aban, il a été écrit par Ouzgan, qui était le secrétaire du Parti communiste. Une seule fois parler d'arabité comme culture, parce que nous ne sommes pas arabes, nous sommes des amazighs, mais qui, disons, sont devenus un peu arabes par l'islam, vous savez, c'est tout, et par la langue. Mais nous sommes des amazighs, il a raison de dire ça. Mais la dimension arabe est importante, parce que finalement, C'est pas une culture amazighe qui nous a pétri depuis ce temps-là, c'est vrai. C'est la culture arabe, c'est une histoire.
Je rappelle pour les auditeurs que l'amazigh, c'est la berbérité.
La berbérité. Moi, je suis berbère. À l'origine, je suis berbère. Mais je suis devenu, disons, un peu arabe, beaucoup arabe, par la culture arabe, parce que c'est une culture extraordinaire. Le bulletin du premier nom qui est lancé, disait expressément que l'avenir, nous devons créer les instances de nos étatiques, etc., en tenant compte de notre culture arabo-islamique. Voilà ce qui était dit.
Alors,
et nous répétions à chaque fois, n'est-ce pas ?
Après le congrès de la Soumam, vous êtes un peu exclu des décisions. Et puis, le 27 décembre 1957, Aban Ramdan est assassiné par le groupe militaire de ceux qu'on a appelés les 3B, Boussouf, Bentobal, Belkacem Krim. Vous étiez plutôt, je ne vous accuse pas d'avoir assassiné Aban Ramdan, attention, mais vous étiez plutôt de ce côté.
J'étais à la santé à l'époque, depuis déjà un an avant, etc. J'apprendrai ça un an après. Parce qu'ils m'écrivent et ils me disent « Nous avons été obligés de ceci, de ça ». Et comme je connais le personnage, vous savez, Aban, c'était quelqu'un qui avait des qualités formidables, mais c'était d'une brutalité inouïe. Et la seule chose qu'il ne faut pas être avec des Algériens, c'est être brutal, vous savez. C'est caractériel, nous sommes comme ça.
Boussouf aussi était caractériel et brutal.
Non, lui était berrien, hein. Je m'excuse de dire ça. C'est berrien, lui, c'est l'autre dimension.
Alors, pour certains historiens ou même acteurs algériens, si Aban avait vécu, la face de l'Algérie indépendante aurait été changée. Est-ce que l'assassinat de Ramdan est la raison pour laquelle il y a eu à la libération l'instauration d'une dictature militaire et la fin des espérances d'une Algérie citoyenne ?
Non, écoutez, ça c'est encore, je m'excuse, c'est de l'autre côté de la Méditerranée qu'on crée, qu'on imagine des choses, etc. Non. L'Algérie, de toute façon, n'aurait jamais été ça, parce qu'elle ne porte pas ça en elle. L'Algérie véritable ne porte pas ça. Elle est le continuum de quelque chose qui s'est fait depuis l'émir Abdelkader. La révolution algérienne est un continuum. On ne peut pas la mettre sur d'autres rails que sur celles sur lesquelles ont été conduites toutes les actions. L'émir Abdelkader, le Cheikh Bouziane, la Kabylie, Zahacha, etc. 132 ans. Vous savez, lors desquels nous avons perdu 7,5 millions d'Algériens. Ce sont les historiens français qui le disent, ça. Le 1er novembre est un continuum. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait, disons, en dehors de cela. une route, c'était dégagé, parsemé par différents événements, mais nous étions sur la même ligne. Le 1er novembre, a été un continuum de cette ligne-là. La période Rabban a voulu, disons, expurger quelque chose d'essentiel, malheureusement pas, etc. C'est la dimension culturelle. Et peut-être sur des conseils de frères algériens, marxisants, etc. Je ne suis pas contre le marxisme personnellement. Marx, pour moi, est un immense personnage, etc. Mais je n'ai rien à voir avec Marx, fondamentalement. Mais aujourd'hui, je vous assure, pour l'altermondialisation, je travaille. Tous ceux qui m'entourent sont des marxistes. C'est de grands amis. Mais en ce qui concerne l'Algérie, c'est autre chose. La révolution ne s'est pas faite de cette façon. Alors je vous dirais aussi, ce qui complique les choses, c'est qu'avec Abban vont revenir les centralistes qui étaient contre Moussali Hadj, ceux qui étaient contre le 1er novembre. On n'a pas parlé beaucoup de ça, mais les personnes ont tout fait pour que le 1er novembre n'ait pas lieu. Beaucoup plus que Moussali, beaucoup plus que etc. Et voilà qu'on les retrouve avec Abban. C'est avec eux qui créent la fameuse commission, etc. Parce qu'il les a récupérés, il les a lavés. Hein. Et puis voilà qu'ils deviennent les dirigeants de la révolution jeune. Voilà ce qu'Abban a fait qui n'a pas été accepté.
Alors, il vous arrive, vous, un drôle d'événement. Le 22 octobre 1956, vous embarquez à bord de l'avion royal marocain où se trouvent Khider, Aït Ahmed et Rabah Bitar, et puis également Mohamed Boudiaf. Et votre avion est détourné par les services français. L'histoire le tranchera peut-être un jour, mais on dit que c'est le futur Hassan II qui vous a livré aux Français. Vous êtes donc emprisonné à la Santé. Est-ce que vous êtes consulté en prison? Est-ce que vous avez déjà des contacts avec Boumediene? Et est-ce que votre emprisonnement ne vous a pas finalement servi dans la mesure où il vous a éloigné des luttes fratricides qui avaient lieu au sein du FLN?
Cela peut-être m'a servi parce que je suis resté vivant. Ça veut dire que j'étais en prison, donc ça m'a fait du bien. Peut-être, pourquoi pas, hein? On a tellement, c'est vrai, il y a tellement de frères qui ont été descendus. Peut-être, c'est vrai que la confrontation devenait absolument indispensable entre moi et Abban, n'est-ce pas? Si j'étais resté dehors, n'est-ce pas? Non, mais d'abord, je voudrais qu'on rappelle que cet événement, c'est un peu plus important que le problème de Hassan II, etc., sur lequel je ne dis rien du tout, absolument rien. Mais c'est important de dire quand même que cette affaire était, disons, a initié un peu un phénomène de piratage. Vous savez, le premier avion piraté, c'était le mien. Je l'ai dit à la télévision, on ne veut plus me parler de cela. Après, ça fait des petits, hein. Oui, mais le premier, ça a été celui-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous négocions depuis 8 mois avec la France, que dans ma poche, l'accord entre nous et la France existait lorsque les colonels sont venus me parler après notre arrestation et que le général, je ne me rappelle plus quel général est venu, le chef d'état-major français, me proposer de recommencer les négociations, mais à ce moment avec l'armée française. Parce que l'armée française n'accepterait jamais que l'affaire de l'Indochine revienne. L'Algérie est beaucoup plus importante que l'Indochine. L'Algérie n'est pas à 10 000 km. L'Algérie n'a pas 10 000 Français seulement, mais 2 500 000 Français. Et que c'était non seulement un territoire d'outre-mer, mais c'était la France. C'est Dunkerque à... La phrase, c'était de Dunkerque à Tamanrasset, rappelez-vous, qui un peu résumé cela. Et que donc l'armée n'accepterait jamais, etc. Et je refuse, je lui dis, mais moi, pour moi, la France a un État, nous avons négocié avec votre exécutif, c'est M. Guy Mollet qui a le premier eu l'idée d'une négociation. Ça fait 8 mois que nous négocions, 3 mois au Caire, 2 mois et quelques chez Tito, et à Rome, ce qui restait, et j'ai l'accord dans ma poche. Et ils me disent, non, cet accord jamais ne s'appliquera. C'est une trahison pour nous. Et donc, nous vous proposons de renégocier avec vous. J'ai refusé. Voilà. Donc, je m'excuse d'apporter ces précisions. Donc, l'affaire de l'avion est venue, c'est la première dans son genre. C'est finalement, elle a été inaugurée ce jour-là, n'est-ce pas? Ce jour-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça s'est produit 8 mois après que nous ayons négocié, d'abord au Caire, ensuite chez Tito, et finalement à Rome, et que nous étions arrivés à un accord qui finalement supposait ce qui s'est passé par la suite. Mais cette guerre a duré 2 ans et demi à cause des militaires.
Et alors, est-ce que quand vous êtes en prison, vous avez des contacts avec le FLN ?
Oui, donc on a continué à avoir des contacts, bien sûr. On avait des avocats composés d'Algériens, mais aussi de Français, de Françaises, qui est formidable, etc. Mais bon, nous n'avons pas assisté à toutes les négociations. Il y a eu manifestement une volonté un peu de nous écarter. Je pense que même la partie française n'était pas contre cela, n'est-ce pas ? Parce que peut-être pensait-il que nous ne serions pas si faciles à, disons, à accepter certaines, etc. Et que donc, mais finalement, d'ailleurs, ça s'est passé ainsi, puisqu'on a refusé, on est venu à la fin nous demander de contre-signer, nous avons refusé, personnellement j'ai refusé, il a fallu qu'on revoie certains points, et à ce moment-là, oui, on a accepté, alors que l'état-major, lui, avait refusé au congrès de Tripoli, par la suite, il a refusé de contre-signer ça, nous on a contre-signé, il a fallu quand même revoir certains points.
Et étiez-vous en relation avec Boumediene quand vous étiez en prison ?
Au moment où Boumediene chez moi était quelqu'un que je suis allé prendre à l'Azhar. Il devait sortir de l'Azhar. Il m'a fallu 2 mois pour le convaincre, ainsi que cet autre que j'ai mis dans le bateau Dina, le premier bateau qui nous a porté des armes. Et qui est venu non pas du côté de Tripoli, mais du côté du Rif, parce qu'on nous attendait les Français du côté de la Tunisie. Et que, bon, moi j'ai décidé d'aller du côté du Maroc, parce que là, on ne m'attendait pas. Et donc, le fameux bateau Dina, c'est à ce moment-là que Boumediene, je l'ai mis là. Je suis allé le voir à l'Azhar, ainsi que cet autre. Je les ai convaincus de venir, on les a entraînés comme ça, rapidement, et on les a mis dans ce bateau.
C'est sur ce constat et sur ce suspense que nous nous quittons aujourd'hui et que nous nous retrouverons demain pour la suite de cet épisode. Merci, monsieur Ahmed Ben Bella. Au revoir.
C'était À voix nue, hommage à Ahmed Ben Bella que Séverine Laba rencontrait en mai 2005. Attaché d'émission Claire Poinsignon, réalisation Mehdi Elange, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant 2 semaines sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Séverine Laba avec Ahmed Ben Bella.
Luna, le boule d'un Luna. نحبك ونموت